autrefois pour faire sa cour, on parlait d'amour.
R. Dromardèche. Aujourd'hui, nous avons rencontré hier, dimanche 1er février, Dominique Lalanne, responsable d'un mouvement contre l'armement atomique. Donc c'est un petit peu particulier, là où nous allons parler des armements atomiques aujourd'hui. Mais avant cela, nos billettistes sont installés autour de la table. Bonjour Georges, bonjour Vanessa.
Bonjour.
Et bien Georges, toi tu nous parles d'un sondage.
Oui, ce sont toutes des infos d'après Ori Yachouo. Alors tout d'abord, selon un sondage de septembre 2014, 61% des gens s'opposent à la remise en service des réacteurs. Le 17 septembre 2014, l'autorité de régulation nucléaire a publié que les deux réacteurs du département de Fukui Takahama sont en conformité avec les règles de sécurité. Cependant, ces observations de l'ARN ne sont pas fiables. Le responsable en chef de cette autorité, M. Tanaka Shunichi, dit lui-même « Je dis que les réacteurs sont en conformité avec les règles, mais je ne dis pas qu'ils sont sûrs et seront exempts d'accidents. La mission de l'autorité est seulement de juger si l'équipement du réacteur est en conformité ou non avec les règles, mais le Premier ministre Abe ne cesse de dire, en déformant ses paroles, « Si l'autorité constate la sécurité d'un réacteur, mon intention est de le remettre en route. » Et bien sûr. Donc, un autre paragraphe. Au sujet des réacteurs de Sendai, le plan d'évacuation des habitants des villes environnantes n'est pas prêt. Et en outre, beaucoup craignent que ne survienne une énorme éruption volcanique sur l'île de Kyushu. Le gouvernement et le département disent que lorsque surviendra un accident grave, ils prendront la responsabilité sur eux. Mais, comme vous constatez la réalité dans le département de Fukushima, il est clair que personne ne pourra en répondre.
Alors, ton deuxième cri de colère, si j'ai toujours bien compris, c'est TEPCO qui fait encore des siennes, semble-t-il.
Oui, toujours TEPCO devant et de partout, sauf là où il faut, bien sûr. En effet, le gouvernement et TEPCO ne veulent pas verser aux sinistrés des indemnités suffisantes. Afin de résoudre un conflit entre TEPCO et les sinistrés, il existe le système ADR. En clair, une résolution alternative par discussion, plus simple et facile qu'un règlement en justice qui permet aux victimes de demander une solution. Les concrétisations s'effectuent très lentement. Par exemple, dans la ville de Nami, ville voisine de la centrale nucléaire, 15 313 citoyens, soit 70% de la population, se sont groupés pour demander la résolution par l'ADR en mars 2013. La compagnie TEPCO paie actuellement par personne 100 000 yuan, soit 1 000 euros par mois, mais ils ont exigé qu'elle paye 3 500 euros. Et le centre a arrangé un compromis pour faire passer le montant compensatoire à 1 500 euros. Mais TEPCO a refusé. Pendant ce temps, déjà 238 personnes sont mortes. À présent, tous les habitants de Nami se sont réfugiés dans d'autres villes où ils vivent dans de petites maisons provisoires.
Oui, alors c'est là, on parle encore 3 ans après de réfugiés et il n'y a pas qu'à Nami, il y a d'autres réfugiés ailleurs.
Et oui, et encore. Dans la ville d'Okuma se trouvent 4 réacteurs de la centrale numéro 1 de Fukushima. Suite à l'accident, tous les habitants se sont réfugiés dans d'autres villes. Alors, au cours d'une visite du quartier où sont les réfugiés d'Okuma, à savoir Aizu Wakamatsu, une trentaine de personnes âgées et 2 jeunes étaient venus dans la salle commune. Le chef du district, un ancien employé de la centrale, était fier d'être en excellente santé, bien qu'il ait travaillé là-bas pendant 40 années et qu'il ait été fortement exposé aux irradiations. Il avait parfois avalé ou inspiré des matières radioactives et on lui avait alors recommandé de boire beaucoup de bière pour les éliminer de son corps. Il soulignait que dans le manga Oshinbo, on voit des hommes souffrir de saignements de nez consécutifs à l'explosion des réacteurs. Or, d'après lui, la chose est complètement fausse, car beaucoup de ses collègues n'ont jamais saigné du nez. Je lui ai opposé avec un peu d'hésitation que d'après certains rapports, des mères réfugiées avaient témoigné que leurs enfants avaient des saignements de nez, mais cet homme insistait disant que ces rapports étaient mensongers. Voilà, donc Dominique, vous savez ce qu'il vous reste à faire, beaucoup de bière.
Voilà, tout à fait.
Et bonne santé.
Merci bien Georges. Vanessa, toi tu vas nous parler de Stéphane Lhomme, militant antinucléaire bien connu pour avoir été dans plein de procès et qui vient d'être relaxé le mercredi 21 janvier par la Cour d'appel de Paris.
Oui, bonjour à tous. Alors je vais vous parler effectivement de Stéphane Lhomme, président de l'Observatoire du nucléaire, qui était poursuivi en diffamation par la multinationale française Areva, laquelle l'avait accusé de corruption au Niger. Alors en effet, en décembre 2012, Stéphane Lhomme expliquait qu'Areva avait alloué un budget de 26 millions d'euros au gouvernement du Niger, dont 15 millions d'euros auraient été affectés directement à l'acquisition d'un avion pour le président du Niger. Stéphane Lhomme déclarait en outre « Il s'agit donc clairement d'une manœuvre de corruption, probablement sur le plan légal et assurément sur le plan moral par Areva ». Le lendemain, Zakari Oumarou, président du groupe parlementaire du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, parti au pouvoir, confirmait qu'Areva avait accordé au Niger une aide budgétaire de 26 millions d'euros, dont une partie avait été affectée à l'achat d'un avion présidentiel. Areva, qui a contesté toute accusation de corruption, avait ensuite assigné en justice Stéphane Lhomme, responsable de la publication. En première instance, le tribunal correctionnel de Paris l'avait condamné le 7 février 2014 à 1 000 euros d'amende avec sursis, ordonnant le retrait des propos litigieux ainsi que la publication d'un communiqué judiciaire sur le site internet de l'Observatoire du nucléaire. Les juges avaient estimé que l'utilisation du terme « corruption » ne faisait manifestement preuve d'aucune prudence. Il faut dire que les soutiens à l'Observatoire du nucléaire ne se bousculaient pas à l'époque, dans un mouvement écologiste englué dans la participation gouvernementale. Pascal Canfin, ministre Europe Écologie Les Verts du Développement de mai 2012 à mars 2014, et donc au moment de l'affaire du don d'Areva au Niger, déclarait sur France Inter, sur la question de l'avion, c'est une décision qui relève du gouvernement du Niger. Dans le cadre d'un pacte d'actionnaires, Areva verse au budget du Niger une certaine somme. Le Niger fait ce qu'il veut avec cette somme. Avant de faire appel et d'obtenir gain de cause mercredi 21 janvier 2015, Stéphane Lhomme avait dénoncé un jugement affligeant mettant gravement en cause la liberté d'expression et le droit de contester les méfaits des entreprises du lobby nucléaire. Areva veut pouvoir continuer à piller l'uranium du Niger, disait-il, mais sans être mis devant ses responsabilités. Pour ce faire, Areva veut la disparition de l'Observatoire du nucléaire en exigeant plus de 25 000 euros de pénalité.
Et alors, donc, finalement, qu'a dit la Cour d'appel ?
Alors, en attente de la publication du jugement, qui nous en dira plus sur le fond, elle déboute, en conclusion, elle déboute Areva de toutes ses demandes, confirmant par là même ainsi les dires de l'Observatoire du nucléaire et de Stéphane Lhomme, que, par ailleurs, nous félicitons.
Eh bien, on est tous ici ravis pour Stéphane.
Tout à fait.
Et maintenant, eh bien, une petite chanson à Fukushima.
Si tout se passe comme prévu à Fukushima, comme c'est déjà advenu, la terre tremblera. Si tout se passe comme prévu, les centrales nucléaires soudain ne fonctionneront plus. C'est en tout cas ce qu'on espère. Si tout se passe comme prévu, il n'est pas exclu qu'une part des populations subisse une irradiation. Si tout se passe comme prévu à Fukushima, une vague jamais vue déferlera. Si tout se passe comme prévu, les réacteurs en fusion, tels des volcans contenus, entreront en éruption. Si tout se passe comme prévu, il n'est pas exclu qu'une part des populations subisse une irradiation. Si tout se passe comme prévu, réécrivez vos discours, car vu les risques encourus, l'expérience est sans retour. Si tout se passe comme prévu à Fukushima, il faudra qu'on évacue, rien ne restera qu'une côte désolée, un tombeau brûlant, les traces de ce brasier dureront éternellement.
Le nucléaire est un choix stratégique commun que la France et le Japon ont engagé depuis longtemps, que nous avons pleinement assumé et qui fait de nous aujourd'hui des pays leaders dans le monde.
Si tout se passe comme prévu, à Fukushima, on fera des plus-values en traitant tout ça. Et la France est toujours fière de ses experts, construira sur la poussière quelques centrales nucléaires. Si tout se passe comme prévu, il n'est pas exclu qu'une part des populations subisse une irradiation.
Nous avons rencontré hier, lors de l'Assemblée générale de sortir du nucléaire, Dominique Lalanne, président de l'association Stop Arme Atomique. C'est donc un enregistrement et qu'on va vous présenter en deux parties. Et voici la première partie.
Bonjour, eh bien, nous sommes avec Dominique Lalanne dans le cadre de l'Assemblée générale de sortir du nucléaire. Pourquoi cette rencontre? Parce qu'en fait, on était venu ici pour rencontrer plein de congressistes, on l'a fait, mais c'était tout à fait intéressant de discuter avec un des animateurs et responsables de Armes Nucléaires Stop. Une brochure qu'on a trouvée sur leur stand nous a beaucoup impressionné, et Dominique va nous en parler, c'est « Et si une bombe atomique tombait sur la ville de Lyon ?»
Oui, donc Armes Nucléaires Stop publie beaucoup de documents et puis a vocation à informer le public et à faire des conférences et à montrer ce que c'est qu'actuellement les bombes nucléaires. Et nous avons fait cette brochure parce qu'il y a des conférences internationales qui se tiennent depuis 2 ans pour étudier les conséquences catastrophiques d'une frappe nucléaire. Ces conférences internationales convoquées par des États et qui regroupent environ 150 pays chaque fois ont pour but de poser le problème des armes nucléaires différemment. Au lieu de se dire il ne faut pas proliférer sur la planète, comme le traité de non-prolifération s'en préoccupe, mais il faut au contraire se préoccuper des conséquences dramatiques qu'aurait une frappe nucléaire ou une guerre nucléaire. Et donc nous avons fait cette brochure pour distribuer aux ambassadeurs des 150 pays. C'est une brochure bilingue, évidemment, puisque les ambassadeurs parlent plutôt anglais que français, et pour montrer qu'actuellement, une bombe atomique qui tomberait sur une ville comme Lyon, on a pris Lyon parce que c'est une ville qui est relativement typique d'une ville moderne, et quelles seraient les conséquences d'une telle explosion nucléaire?
C'est assez, quand on lit votre brochure, on a des images un peu de Nagasaki, Hiroshima, etc., mais là, on est vraiment dans le film catastrophe, quasiment.
Quoi, oui, là, si on évoque Hiroshima, Nagasaki, on a tous les images d'une ville calcinée, détruite sur des kilomètres et des kilomètres, mais une ville comme Lyon, ça n'est pas exactement ça, c'est bien pire, je dirais. D'abord, c'est bien pire parce que les bombes nucléaires actuelles sont entre 10 et 1000 fois Hiroshima. Le dimensionnement de l'impact est tout à fait différent. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est que les villes actuelles ne sont pas organisées comme les villes d'Hiroshima. Les villes actuelles, ce sont des nœuds de réseau. Et un nœud de réseau fait que, à partir du moment où il est détruit, tout le réseau est détruit. Une bombe qui tombe sur Lyon, c'est une bombe qui détruit quasiment la moitié de la France. Parce que toutes les lignes de train passent par là, les routes passent par là, le gaz passe par là, l'électricité passe par là, l'eau passe par là, et donc on contamine et on détruit au point de vue relationnel et affectivité, on détruit une ville comme on détruit toute la région Rhône-Alpes. Parce que, une ville sur Lyon qui est détruite, à ce moment-là, il n'y a plus de communication, il n'y a plus d'électricité, et donc la vie s'arrête, et personne ne peut plus communiquer ni se déplacer. Donc ça, c'est la deuxième conséquence extrêmement grave et extrêmement différente d'une frappe comme sur Hiroshima. La troisième conséquence, très différente aussi, c'est que les villes modernes comme Lyon sont des centres industriels avec beaucoup d'installations. À Lyon, il y a du pétrole, il y a du gaz, il y a pratiquement la zone industrielle majeure de Lyon est maintenant quasiment en ville. Oui. Donc si une bombe tombe sur Lyon, dans la zone pétrolière qui est en bordure de ville, il y a à peu près 10 fois l'énergie de la bombe atomique. Donc il va y avoir un incendie qui correspond à 10 fois l'énergie de la bombe atomique, qui va faire un panache de fumée gigantesque dans le ciel, avec une pollution de l'atmosphère en très haute altitude. Il va y avoir, il y a des centres industriels sur des recherches chimiques, des recherches de même biologiques. Il y a un centre dans Lyon, il y a un centre d'études des virus les plus pathogènes de la planète. Et évidemment, si ce centre-là est
touché, oui,
est touché à ce moment-là, les virus vont partir partout. Et donc, vous avez une catastrophe tout à fait différente qui peut arriver. Et donc, avec un bombardement atomique, il n'y a plus de secours possible. Vous détruisez évidemment les médecins, les secours, les pompiers, la police. Il n'y a plus... vous détruisez tout. Donc, à partir du moment où vous avez atteint des zones industrielles actuelles, vous décuplez le drame nucléaire tout à fait sous une autre forme.
Et là, vous ne parlez pas d'une bombe super, c'est les bombes qui
sont
dans nos sous-marins.
Voilà, ce qu'on a pris, c'est la bombe qu'on a dans nos sous-marins. Hein, on a pris cette bombe-là à titre d'exemple pour se dimensionner sur ce qui est quelque chose qui correspond à l'heure actuelle. Donc, effectivement, on pourrait imaginer que ça soit une bombe soit moins puissante comme celle d'Hiroshima. Nos bombes, nous, font 10 fois Hiroshima. Hein. Donc, c'est une petite bombe actuelle. Hein. Mais il y a des bombes qui sont beaucoup plus puissantes que ça dans les arsenaux russes et américains. Donc, ça correspond à un accident possible, parce qu'il y a eu des accidents aux États-Unis où des bombes étaient larguées par erreur. Elles ont failli s'amorcer. Donc ça pourrait être un accident possible. Ça pourrait être une frappe aussi, bien sûr, une frappe terroriste ou militaire. Donc on peut imaginer ça. On peut imaginer aussi que ça soit une erreur de calcul, quoi. Enfin, c'est-à-dire une bombe qui part sans qu'on ait l'intention de partir, mais qu'elle parte de façon accidentelle.
Est-ce que ça pourrait aussi être un accident de transport? Parce qu'on est ici à Dijon, où il y a un centre qui retravaille, qui répare les bombes atomiques, qui passe par Lyon obligatoirement.
On pourrait imaginer ça, oui. Il y a eu des cas comme ça, où des bombes ont failli s'amorcer par accident. Bon, c'est sûr que toutes les bombes françaises passent par Dijon, puisqu'on est à Dijon, on peut en parler. Toutes les bombes françaises passent par Dijon, parce qu'à côté de Dijon, il y a le centre de Valduc, qui est un centre du CEA, qui entretient les bombes. Et donc, il faut les entretenir régulièrement, en les rechargeant en tritium. Et donc, toutes les bombes qui doivent être vérifiées viennent à Dijon et repartent. Donc, on a 300 bombes à gérer. Donc, ces bombes-là passent régulièrement. Et sur les routes dans la région, il y a beaucoup de bombes qui passent, dans des camions très discrets, évidemment. Et donc, on peut imaginer qu'un de ces camions rencontre de façon accidentelle un poids lourd de transport de carburant, qu'il y a un incendie, que la bombe soit dans des conditions déplorables et accidentelles, telles qu'il y ait une mise à feu. C'est très improbable, évidemment. Il faut imaginer une série de catastrophes en série.
Les grands accidents sont souvent le fruit de plusieurs séries de choses imprévisibles, en fait.
On peut imaginer beaucoup de choses imprévisibles qui se succèdent. Imaginez qu'une bombe comme ça explose au sol. Alors, une bombe qui explose au sol, c'est pas tout à fait une bombe larguée par un missile, parce que pour qu'une bombe soit très efficace, il faut qu'elle soit larguée en altitude pour, évidemment, concerner une région grande. Une bombe au sol va faire également une explosion qui détruit une grande région, à peu près trois fois moins grande que si elle est explosée en altitude. Mais surtout, elle va faire un cratère dans la Terre. La bombe que j'ai prise, celle la française, là, de 10 fois Hiroshima, va faire un cratère de 50 mètres de long et de 200 mètres de large.
Oui,
donc, quand vous voyez 50 mètres de long, c'est un immeuble énorme. Donc, vous faites un cratère qui va être contaminé et qui va être irradié par la bombe, et donc qui va devenir radioactif, et toutes les particules de ce cratère vont partir dans l'atmosphère, et ça va faire une pollution géante. Donc une bombe qui explose au sol a un effet d'abord de destruction, mais aussi de pollution catastrophique.
Votre brochure, elle est intéressante, parce que c'est un peu le scénario catastrophe. On pourrait se dire, mais on n'est plus dans les années 60, au moment de la guerre froide, les risques de guerre, aujourd'hui, on accumule des armes nucléaires, mais les risques d'accidents ou de bombardements, etc., sont quand même relativement faibles. Est-ce qu'on doit encore se battre contre les armes nucléaires, ou est-ce qu'on se dit, finalement, elles restent chez nous, mais c'est une sécurité?
Voilà, c'est ça, c'est la doctrine officielle, c'est grâce aux bombes nucléaires qu'on a notre sécurité. Et c'est notre assurance vie. Voilà. C'est une vision tout à fait fausse. Parce que il y a actuellement 16 000 bombes nucléaires. Au moment le plus chaud de la guerre froide, il y a eu 70 000 bombes nucléaires. Maintenant, il y en a encore 16 000 en service, dont 2 000 qui sont en état d'alerte. En état d'alerte, ça veut dire que sur un signal radar, eh bien, le président des États-Unis ou de Russie peut appuyer sur le bouton rouge et envoyer des centaines, voire des milliers de missiles pour détruire l'ennemi. Alors, cet état d'alerte, c'est encore celui de la guerre froide. C'est ça qui est invraisemblable.
Oui, 20 ans
après la fin de la guerre froide, on a encore un état d'alerte qui est celui de la guerre froide. Mm-hmm. Alors bon, on peut se dire, les tensions internationales sont peut-être pas les mêmes, mais enfin, l'état d'alerte est là. Et il y a eu dans le passé un certain nombre de cas où l'état d'alerte s'est déclenché par erreur aux États-Unis, en Russie, pardon, en Union soviétique à l'époque, c'était en 83, il y a eu cet état d'alerte déclenché, il y a eu un signal radar qui indiquait que 5 missiles attaquaient la Russie, qui était tout à fait faux, ce n'étaient pas des attaques de missiles, mais c'était des reflets sur le soleil, mais que le satellite détectait comme des missiles, et l'état d'alerte a été déclenché tel que celui qui était responsable devait transmettre au Kremlin l'information qu'il fallait répondre à une attaque nucléaire. Heureusement, Stanislas Petrov, le colonel en charge de transmettre ce message, qui devait faire ce travail de dire on est attaqué, a dit fausse alerte. Ce qui était tout à fait contraire à toutes les informations qu'il avait, parce qu'il a vérifié toutes les informations, et toutes les informations montraient que c'était un état d'alerte d'une attaque de 5 missiles. Le Kremlin, donc, n'a rien fait. Et heureusement, parce que c'était des reflets sur le soleil. Mais sinon, il y avait 1000 missiles qui partaient sur les États-Unis et après 1000 missiles qui partaient des États-Unis sur l'Union soviétique. Et donc, c'était l'apocalypse. Donc, on est dans un état d'alerte qui permet d'imaginer des erreurs de diagnostic telles que la guerre nucléaire se déclenche par erreur.
Oui,
on a
toujours des docteurs Folamour possibles. On est toujours un peu dans ce...
Folamour, c'est le fou.
Oui, c'est le fou.
C'est le fou qui tout d'un coup veut faire la guerre. Mais là, c'est l'erreur. Personne n'est fou, il y a une erreur.
Bon, on va faire une petite pause. On va reprendre après parce qu'on est en 2015, 70 ans après Hiroshima et Nagasaki. On va parler de ça tout de suite après la pause musicale.
Le jour où ça craquera, je veux être dans tes bras. Le jour où ça craquera, je veux être dans tes bras. Quand à force de n'y pas croire, notre monde explosera. Quand se fera la nuit noire, je veux être dans tes bras. Au diable ces lois trop grandes, qui de nous disposeront? Moi simplement je demande que ça ne soit pas trop long. Le jour où ça craquera, je veux être dans tes bras. Comme ça n'est pas mon affaire de mourir en sachant pourquoi, j'oublierai bientôt, j'espère, tout ce qui ne sera pas toi. Moi, pourvu que je te tienne, avec toi les yeux fermés, toi et moi, quoi qu'il advienne, que nous partions les premiers. Le jour où ça craquera, je veux être dans tes bras, qu'il n'y ait pas d'inventaire, qu'on ne puisse regretter ce qu'il nous restait à faire et puis à aimer. Qu'on ne pense pas aux branches, qu'on ne pense pas au vent, que ça ne soit pas dimanche ou qu'on nous achève avant. Le jour où ça craquera, je veux être dans tes bras. Qu'on ne fasse pas la somme des bonheurs que nous perdrons, qu'on ne sache jamais comme vieillir nous eût été bon. Pense à toutes ces années, pense à ces printemps perdus et la Méditerranée, faut-il qu'elle ne soit plus. Le jour où ça craquera, je veux être dans tes bras. Pense aux moissons dans les granges, pense aux raisins de chez nous. Je sais bien que je mélange, quand on aime tout. Pense aux plongeons dans l'eau verte, au réveil de chaque jour. Quotidienne découverte, des yeux neufs de notre amour. Le jour où ça craquera, je veux être dans tes bras. Alors plus jamais la neige et plus jamais le soleil. Oh, comment supporterais-je qu'on fasse un gâchis pareil? Non, puisqu'on sera ensemble, tu me tiendras fort, fort. Et juste avant que ça tremble, juste avant nous serons morts. Le jour où ça craquera, je veux être dans tes bras. Aujourd'hui tu dois me croire, c'est pour toi que je vivais. En attendant la nuit noire, ne me quitte plus jamais. Je ne veux plus penser même qu'il y avait un ciel bleu. Je souhaite à tous ceux qui s'aiment de mourir comme nous deux. Le jour où ça craquera, je veux être dans tes bras. Le jour où ça craquera, je veux être dans tes bras.
Vous êtes toujours sur Atomic Mac, Anne Sylvestre, Le jour où ça craquera. Et nous reprenons notre entretien avec Dominique Lalanne. Alors, vous avez pu remarquer lors de la première partie de l'entretien des bruits de fond. Nous étions dans un centre de congrès et trouver des endroits calmes était assez compliqué. La parole à Dominique Lalanne.
J'ai cru comprendre que vous n'êtes pas seulement, vous n'intervenez pas seulement au niveau sur le territoire national, mais également en Angleterre avec les Américains, etc.
Oui, alors il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises au niveau international, parce que la communauté internationale est très préoccupée par l'état de dangerosité actuel des armes nucléaires. Il y a 16 000 bombes qui partent, comme je l'ai dit tout à l'heure, et puis 2 000 en état d'alerte, 16 000 dans les arsenaux. Nous en avons 300 en France. Et donc, la communauté internationale, depuis 2 ans, se préoccupe par des conférences qui sont organisées par des États. La première, ça a été par la Norvège, la seconde par le Mexique et il y a 2 mois par l'Autriche. Des conférences pour étudier les effets catastrophiques d'une arme nucléaire. Et ces conférences donnent une dynamique tout à fait différente. Il ne s'agit plus de parler de non-prolifération, mais il s'agit de parler d'accidents et de risques de dangerosité pour l'humanité. Et grâce à ces conférences, la dynamique qui s'est... C'est des conférences qui sont faites en parallèle avec les États et les ONG.
Les ONG,
voilà, donc à Vienne, par exemple, dans la même salle, on avait 150 ambassadeurs et 300 ONG, et qui étaient ensemble pour discuter et donner leur point de vue, poser des questions et dire que c'est inadmissible. Et ce qui se dégage après cette dynamique de 3 conférences, c'est la demande d'un traité d'interdiction des armes nucléaires. Ce qui serait très différent de la situation actuelle, parce qu'actuellement, au niveau de législation internationale, les armes nucléaires sont autorisées.
Oui, au moins dans 9 pays.
Voilà, mais même pour tous les pays. Alors les pays ont signé un traité de non-prolifération, c'est-à-dire qu'ils s'engagent, tous ceux qui ont signé ce traité, c'est-à-dire tous sauf 9 États, enfin tous sauf 4 États, mais dans le traité de non-prolifération, il y a 5 États qui ont le droit d'avoir des armes nucléaires, qui doivent se préoccuper de les éliminer, mais qui ont le droit de les avoir. Donc on est dans une situation internationale où l'arme nucléaire est autorisée. D'ailleurs, ceux qui ont signé le traité peuvent très bien en sortir s'ils disent que leur vie est menacée par des armes nucléaires, et donc ils peuvent s'en sortir et faire leurs armes. Donc, en fait, ce traité ne permet pas d'éliminer les armes nucléaires. C'est les faits. Il existe depuis 40 ans et il ne sert pas à éliminer les armes nucléaires. Mais donc, ce nouveau traité qui est en gestation les interdirait, ce qui est tout à fait différent. Ce qui est le même processus qui s'est passé pour les armes chimiques, où les armes chimiques ont d'abord été interdites par un traité international et ensuite contrôlées par un traité de vérification de leur destruction. Et maintenant, il n'y a plus que 3 pays qui ont encore des armes chimiques, mais tous les autres ont détruit leur stock. Donc on a, grâce au traité d'interdiction des armes chimiques, l'exemple même de ce qu'il faudrait faire pour les armes nucléaires. Et c'est ça la volonté internationale qui se dégage actuellement. C'est ça la dynamique qui s'appelle aussi au niveau des ONG ICAN, campagne internationale pour abolir les armes nucléaires, ICAN. Et cette campagne essaye justement de faire du lobbying, de faire de l'information pour montrer qu'un traité d'interdiction des armes nucléaires est indispensable.
Mais on imagine que dans ce cadre, chacun doit se regarder en disant « moi je veux bien, mais que les autres commencent ». Il y a un problème, là. C'est chacun attend que l'autre commence à arrêter. On risque de tourner en rond un bon moment.
Absolument. C'est ça la dynamique, c'est ça qui se passe actuellement. Oui. C'est pour ça que tout est coincé d'ailleurs, parce que chaque pays dit « mais je veux bien désarmer, mais les autres commencent ». Ce qui se passe actuellement, c'est que tous les pays modernisent leurs armes nucléaires. Les budgets de modernisation des armes nucléaires sont géants. Aux États-Unis, pour les 2 ans qui viennent, il y a 300 milliards de dollars pour moderniser les armes nucléaires américaines. C'est absolument incroyable. Nous, on dépense 4 milliards en France par an pour moderniser nos armes. Donc, c'est trop, quoi. Donc, le problème qui se passe, c'est comment décoincer cette situation actuelle. Et donc, à partir du moment où les armes seraient interdites, eh bien, il y aurait forcément, pour les pays qui acceptent de reconnaître cette interdiction internationale, un calendrier en disant, voilà, chacun enlève 10% chaque année, et petit à petit, avec des contrôles, évidemment, parce que sans contrôle, il n'y a pas de confiance qui puisse réellement s'établir. Donc, on y va, 10% par 10%, et puis dans 10 ans, on atteint zéro.
Certains courants parlent, pour la France notamment, en disant que la France donne l'exemple en faisant un désarmement unilatéral. Est-ce que vous réclamez cela aussi?
Alors, ça fait partie des scénarios possibles. Ça, c'est un pays, par exemple, éliminerait ses armes nucléaires et prendrait, d'une certaine façon, le leadership au mondial en disant, voilà, je vous montre que c'est jouable. Ma sécurité ne dépend pas de mes armes nucléaires. La sécurité de la France ne dépend absolument pas de ses armes nucléaires. C'est grâce à l'ensemble européen, aux relations internationales, aux relations commerciales, financières, etc., que la France a, que l'arme nucléaire n'a pas de rôle de défense de la France. Mais la France pourrait très bien commencer effectivement en disant « moi je désarme, j'élimine mes armes nucléaires ». C'est ce qu'a fait l'Afrique du Sud.
Oui.
Donc, et puis c'est ce qu'ont fait d'autres pays. la Suisse, la Suède, par exemple, avaient des programmes, il y a longtemps, de développement d'une arme nucléaire. Et au niveau des parlements de ces pays-là, il y a eu une volonté de ne pas les développer. Et donc, ils n'ont pas fait de programme nucléaire. Donc, un pays qui décide de ne pas faire d'armes nucléaires ou de ne plus en avoir, et c'est tout à fait jouable. L'Ukraine a décidé de ne pas avoir des armes nucléaires à la fin de l'URSS.
Voilà. Ce qui est plutôt bien aujourd'hui.
Heureusement, oui, parce qu'aujourd'hui, dans la période instable actuelle, ça compliquerait plutôt les choses. Donc, ça serait très possible. Et ça serait aussi, au niveau international, un choc. Parce que la France est quand même un pays qui est nucléaire depuis très longtemps. Ça serait donc un choc international très révélateur d'une volonté d'éliminer les armes nucléaires. Et donc la France pourrait avoir un rôle international absolument gigantesque. C'est ce que disent aussi ceux qui demandent ce désarmement unilatéral de la France.
Et ça l'agrandirait aussi.
Voilà. Et ça l'agrandirait, oui, comme c'est la France, c'est le pays des droits de l'homme. Enfin, ça serait le pays du désarmement nucléaire. Après, on se garde une image de marque extraordinaire. Et au niveau relationnel, ça nous donnerait une ampleur, une influence au niveau de beaucoup de pays. Il y a beaucoup de pays qui actuellement sont dans des zones qui sont déclarées zones exemptes d'armes nucléaires. L'Afrique, par exemple, l'Amérique du Sud, une grande partie de la Polynésie. Et donc, pour ces pays-là, la France deviendrait un exemple extraordinaire. Donc ça serait une politique tout à fait différente et tout à fait positive d'une attitude de la France. Mais il y a d'autres solutions aussi pour des attitudes positives. Il y a des pays européens comme ceux qui ont des armes de l'OTAN, par exemple. Il y a 5 pays européens qui ont des armes de l'OTAN chez eux, des armes nucléaires, et qui pourraient très bien dire « nous ne voulons plus de ces armes ». Ils l'ont dit d'ailleurs, mais comme dans l'OTAN, c'est une alliance qui s'est mise d'accord pour que toutes ces armes soient éliminées en même temps, et la France a dit « il faut que tout le monde soit d'accord pour tout faire en même temps », Du coup ça coince le processus. Et en plus, la France a dit, de toute façon, moi, je suis pas d'accord. Et comme il faut l'unanimité, d'une certaine façon, à cause de la France, l'Allemagne peut pas éliminer ses armes nucléaires. Enfin, c'est un vrai
semblable. Donc, au lieu d'être en avance, la France, aujourd'hui, plutôt recule, quoi.
Actuellement, la France est un des freins au désarmement nucléaire.
Alors, c'est... On va avoir les 70 ans, la commémoration. Votre organisation, vous allez engager quelque chose de particulier pour commémorer ces 70 ans en France, le calendrier, un peu ce que vous comptez développer?
Oui, alors, cette année, c'est les 70 ans d'Hiroshima et de Nagasaki. Et donc, c'est un moment extrêmement important au niveau mondial. Dans la plupart des pays, les groupes qui veulent le désarmement nucléaire sont motivés pour faire quelque chose. En France, nous avons plusieurs associations, dont Armes Nucléaires Stop, dont la Maison de Vigilance, dont le réseau Sortir du Nucléaire d'ailleurs, qui organisent depuis plusieurs années des présences sur la voie publique qu'on appelle des jeunes actions. C'est-à-dire on ne mange pas pendant les 4 jours entre Hiroshima et Nagasaki et on prend tout notre temps pour faire des actions contre les armes nucléaires. Et c'est en lien depuis plusieurs années avec la base allemande de Büchel, où il y a les armes nucléaires allemandes, et le centre nucléaire de Birkfield, en Angleterre, où il y a l'entretien des armes anglaises. Et donc, depuis plusieurs années, la Maison de Vigilance existe depuis 30 ans et fait ça depuis 30 ans, mais depuis plusieurs années, on fait ça avec d'autres associations, dont le réseau Sortir du Nucléaire, pour montrer que l'arme nucléaire est inadmissible et qu'il faut faire quelque chose. Et donc, pendant 4 jours, on jeûne et on a des actions dans Paris pour manifester notre désapprobation. Donc, on va faire ça cette année, pour les 70 ans, et on va lui donner une ampleur particulière. L'année dernière, on a fait une occupation avec des tentes devant le ministère de la Défense. Bon, évidemment, on a tenu quelques 20 minutes, parce que les CRS sont venus nous déloger. Mais on a montré qu'avec des tentes, qu'on voulait pas d'armes nucléaires françaises, donc qu'on demandait l'élimination des armes nucléaires françaises, au moins c'était clair. Et donc, cette année, on va faire peut-être un peu mieux, on ne sait pas trop encore, on a des projets de manifestation dans Paris. À Val-Duc aussi, à Dijon, il y avait l'année dernière 30 jeuneurs. À Paris, on était 100 jeuneurs, mais à Dijon, on était 30 jeuneurs. Il y en avait d'autres à Saintes, il y en avait d'autres dans d'autres endroits en France, des petits groupes. Cette année, on est en plus en contact avec des jeuneurs qui vont être en Californie devant le grand laser, l'équivalent du mégajoule américain. donc le laser qui doit mettre au point des nouvelles armes nucléaires dans le futur. Donc ça va vraiment être cette année un jeûne international, même qui va concerner les États-Unis.
Ah oui, donc là on est...
Donc là on est vraiment international.
C'est-à-dire, donc maintenant, là j'ai vu que vous appeliez vraiment le réseau anti-nucléaire, mais tous les anti-nucléaires civils qui s'occupent surtout du nucléaire civil à s'intéresser particulièrement cette année-là au nucléaire militaire.
Quoi. Absolument.
Parce qu'on voit bien que tout le monde dit on est contre le nucléaire civil et militaire, mais c'est pas si évident que ça. Donc cette année c'est...
C'est pas si évident que ça, il faut des occasions pour faire quelque chose. Là c'est une occasion du 6 au 9 août. La plupart des gens sont disponibles, ils sont en vacances, donc ils peuvent consacrer un jour ou quelques jours à rentrer en contact avec les endroits où on va être des jeûneurs, à jeûner aussi eux-mêmes, ou participer à ces jeunes actions sans jeûner. D'ailleurs, le jeûne n'est pas obligatoire pour faire les actions qu'organisent les jeûneurs. Et donc, tous ceux qui voudraient donc contacter la maison de vigilance ou Armes Nucléaires Stop vont sur Internet.
Alors, la date de ce jeûne, c'est au mois
d'août.
Donc,
voilà, ça commence le 6 août à 8h15, à l'heure du bombardement d'Hiroshima. Ça se termine à 11h02, le 9 août, l'heure du bombardement de Nagasaki. Et on a deux cérémonies, évidemment, de commémoration avec des amis japonais pour... pour montrer qu'on est en lien avec toutes les victimes. Alors, il y a les victimes japonaises de ces deux bombardements, 200 000 à Hiroshima et 80 000 à Nagasaki, mais il y a aussi toutes les victimes des 2000 essais nucléaires qui ont été faits depuis,
oui.
qui sont des milliers aussi de personnes qui ont eu des cancers, qui ont eu des maladies, qui sont morts et qui essayent de se faire reconnaître comme victimes. Donc, les victimes du nucléaire, ce ne sont pas que des Japonais, c'est aussi beaucoup de personnes qui ont été irradiés ou contaminés lors des essais, des 210 essais français au Sahara et en Polynésie, et puis les 2000 essais qui ont été faits par ailleurs.
Eh bien, merci Dominique. Il y aura quelqu'un d'Atomic Mac qui sera présent lors du jeûne. On en a discuté à quelques-uns, donc on aura l'occasion de revenir sur cette discussion-là.
Et là, vous ferez vos émissions en direct.
Et on les fera en direct, voilà. Merci beaucoup, bonne journée.
Merci.
Eh bien, voilà, pour cet entretien avec Dominique Lalanne, une personnalité tout à fait charmante. Maintenant, nous avons une autre personnalité tout à fait charmante qui vient faire son billet de désintox. Jeanne, c'est à toi.
Bonjour, chers auditeurs. Je vais vous parler, moi, de la transition énergétique française. Ségolène Royal a annoncé le 13 janvier 2015, dans l'usine Nouvelle, la construction d'une nouvelle génération de réacteurs qui prendront la place des anciennes centrales lorsque celles-ci ne pourront plus être rénovées. Elle confirme la fermeture de Fessenheim dès que l'EPR de Flamanville ouvrira, c'est-à-dire en 2018. Madame Royal a changé d'avis. Durant la primaire socialiste de 2011, elle souhaitait ramener le nucléaire à une énergie d'appoint et même en sortir à l'échéance de 40 ans maximum, ce qui impliquait selon elle l'arrêt du chantier de l'EPR de Flamanville. Mais c'est le candidat Hollande qui est président et lui avait annoncé vouloir abaisser la part du nucléaire dans la production d'électricité française de 78 à 50% d'ici 2020 et fermer la vieille centrale de Fessenheim.
Mais alors Jeanne, diminuer le pourcentage, soit, mais de quelle consommation totale parle-t-on? Combien les Français consomment d'électricité et qui prévoit?
Alors les différents scénarios de prévision sont faits par le réseau de transport de l'électricité qui est une filiale d'EDF. EDF fait ses propres provisions et elles diffèrent de celles de sa filiale. Elles sont supérieures d'un tiers au scénario de consommation forte de réseau transport de l'électricité. Monsieur Henri Proliot, ex-PDG d'EDF, peut ainsi dire, lors d'une audition au Sénat en juin 2014, que l'ensemble du parc nucléaire, y compris Flamanville, suffira à peine à couvrir la moitié des besoins à l'horizon 2030. Même son de cloche chez Bernard Bigot, ex-administrateur général du CEA, qui expliquait il y a un an qu'il faut lancer la construction de 35 réacteurs. Madame Royal parle d'une nouvelle génération de réacteurs sans plus de précision et juge que le savoir-faire dans le nucléaire est un atout. En 2019, les industriels français doivent rendre leur plan de bataille sur les prototypes et Monsieur Bigot prévoit déjà, à l'horizon 2050, un parc de réacteurs à eau pressurisée type EPR ou ATMEA, dit de génération 3+, et un ou deux réacteurs à neutrons rapides, dit de génération 4.
Alors concrètement, où en sont ces réacteurs?
Alors les EPR, vous devez le savoir, qu'ils soient construits par Areva pour la Finlande ou par EDF pour celui de Flamanville, sont de vrais fiascos industriels et financiers. 3 fois plus cher que prévu, et ça n'est pas fini, et les durées de construction s'allongent, 6 ans de retard pour l'un, 11 ans pour l'autre. Quant à ATMEA 1, il est dans les cartons d'Areva sans aucun début de construction. les réacteurs à neutrons rapides, c'est Astrid, un super phénix. Rappelons que l'expérience de super phénix est également un fiasco industriel et financier. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça patine. Monsieur Sarkozy, en 2008, nous avait annoncé à peu près dans les mêmes termes le grand retour du nucléaire. Le remplacement de nos centrales nucléaires par les centrales de la nouvelle génération sera accéléré. Ce n'était qu'un effet d'annonce et ça continue. Il n'y a rien de fiable et de compétitif et ce que nous préparent les gouvernements noyautés par les nucléocrates, c'est la prolongation des réacteurs jusqu'à un accident, pendant que les énergies renouvelables progressent à grands pas chez nos voisins européens. Comme le dessinait Charb, le petit bonhomme au gros nez, un ministre s'allèche le lobby nucléaire ou ça ferme sa gueule. Le gouvernement a choisi de défendre le nucléaire en ne choisissant pas expressément les énergies renouvelables. Ce qui n'a pas empêché un coup de com' de la délégation CGT du nucléaire qui a coupé l'électricité pendant une heure à notre premier ministre venu soutenir un candidat dans le Doubs. Ils ont raison, il faut qu'ils s'habituent au retour à la bougie en cas de catastrophe nucléaire. Voilà.
Eh bien, merci Jeanne. Et puis, nous sommes tout à fait dans les temps. Céline et Pierrick s'occupent toujours de leur petit bébé. Ils nous ont donc envoyé l'agenda et c'est Vanessa, qui se charge de nous donner ces informations.
Voilà, me revoilà. Alors, l'agenda de février 2015. Première info, depuis le 23 janvier et jusqu'au 7 février, il y a les rencontres de l'écologie au quotidien dans la vallée de la Drôme, à Die plus précisément. De nombreux ateliers, des projections de films, des débats. Le programme complet est disponible sur le site www.écologieauquotidien.fr. Deuxième info, le 7 février à Lyon, formation à l'action non violente et à la désobéissance civile. Tout le détail sur cet événement et sur d'autres programmes partout en France dans l'agenda du réseau Sortir du nucléaire disponible sur le site www.sortirdunucléaire.org. Tous les samedis matins, place Porte-Neuve à Valence, de 11h à 12h30, nous avons toujours l'action carte PPI, plan particulier d'intervention. Cette action sera doublée ce mois-ci d'une distribution de tracts de 10h30 à 12h30 concernant la chaîne humaine. Alors justement, la chaîne humaine aura lieu le 14 mars, notez bien, elle concernera les sites de Tricastin, de Marcoule et de Cadarache. La préparation s'active, nous vous donnerons de plus amples informations le mois prochain dans l'émission Atomique. Le point de rendez-vous covoiturage pour le 14 mars, on peut vous le dire d'ores et déjà, aura lieu donc à Valence, place Dunkerque à 11h30 pour un départ vers Tricastin à midi. Toutes les infos sur le site de l'association Chaîne Humaine, chaînehumaine.fr, vous seront données. Voilà, en ce moment a lieu une délégation du collectif Mine d'Uranium reçue au ministère de l'Environnement, donc aujourd'hui. Les associations, dont la CRIRAD, attendent de réelles avancées. Alors, on en saura plus ce soir lors d'un point presse animé par Bruno Charéron de la CRIRAD et qui se tiendra donc à 18h à Paris à l'issue de la réunion ministère. Alors, le lieu du point presse, on ne sait jamais s'il y a des Parisiens qui nous entendent ou des Valentinois qui se rendent à Paris. Brasserie Saint-Germain, 62 rue du Bac. À l'angle de la rue du Bac et du boulevard Saint-Germain. Voilà. Le 23 février à 18h, je vous annonce toujours la réunion mensuelle de Sortir du nucléaire 2607 à 18h30, au local de la Frapna. Et enfin, pour finir, dimanche 8 mars à Chomérac, en Ardèche, aura lieu le salon du bien-être sur le thème de l'énergie. Ça se passera donc à la salle du Triolet de Chomérac, un salon hétéroclite autour du bien-être sous toutes ses formes. Alors conférences, stands sur la naturopathie, ostéopathie, gestuelle sensorielle, constellation familiale, gestalt thérapie, magnétisme, cuisine cosmétique, pilates et autres bizarreries. Nous serons présents, donc un stand SDN 2607 sera présent toute cette journée. Sur place, restauration bio, nous vous espérons nombreux. Voilà, c'est fini pour l'agenda.
Merci.
À bientôt.
Merci Vanessa. Alors Atomic Mac est hébergé par Radio Méga, mais est aussi maintenant relayé par Radio Déclic à Tournon et RDW à Die. vie. Ce sont donc des bonnes nouvelles. Nous espérons continuer à nous étendre. Les participants, eh bien Vanessa qui vient de finir son billet, Georges bien sûr, Jeanne, Jean-Pierre à la technique et Dominique. Et les chansons que vous avez entendues, deux des chansons, chansons à Fukushima et celle que vous allez entendre tout de suite, Kayak, sont d'un petit groupe qui s'appelle La Parisienne Libérée et Anne Sylvestre qui nous chantait Un jour ça craquera. Donc maintenant, Kayak, La Parisienne Libérée et bonne journée à vous tous.
Je veux dire que lorsque on a vu ce que j'ai vu à Fukushima, on ne peut pas ne pas comprendre qu'il faut sortir du nucléaire. Et j'inviterai François Hollande à venir avec moi voir les paysages de Fukushima.
Très cher concurrent, il y a des sujets trop déterminants pour ne pas se déterminer. J'ai fait cette nuit un rêve troublant. Nous étions unis au soleil levant. Viens, je t'emmène voir un paysage. Partons si tu m'aimes, partons en voyage. Le cœur en bivouac, rien que toi et moi. Je t'emmène en kayak à Fukushima. Le long du rivage, nous dégusterons plein de coquillages, d'énormes poissons près de la centrale. Depuis quelque temps, la pêche est géniale. Viens, profitons-en. Sur le nucléaire, il paraît que tu hésites. Tout sera plus clair après la visite. Sur le nucléaire, crois-moi, mon amour, tu sauras quoi faire à notre retour. Pris d'une tendre ardeur au pied des débris, près des réacteurs, enfin réunis, nous tomberons d'accord sur un compromis. Puisque Dieu est mort, l'atome c'est fini. Viens, je t'emmène voir un paysage. Partons si tu m'aimes, partons en voyage. Le cœur en bivouac, rien que toi. Et...